Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui notre lecture dans le livre « Contes et légendes du Languedoc » édition Fernand Nathan. Les récits sont traduits et adaptés de l'occitan par Marcel Barral et Charles Campou. Voici le début du sixième conte. Le titre « Le pont du diable ». Cette histoire, ou une autre fort ressemblante, se trouve dans plusieurs régions de France. Écoutez plutôt. Le pont du diable. Au sortir de ses gorges, l'Hérault, avant de s'étaler dans la plaine pour descendre lentement vers la mer, franchit un étroit défilé où, torrent tumultueux, il s'engouffre en grondant. Là, dans un tourbillon puissant, l'eau traîtresse et glauque, quand elle saisit de ses bras fluides et innombrables le corps d'un malheureux nageur ou de l'imprudent qui a voulu se pencher sur ses bords, elle les roule, les entraîne et après les avoir fait tourner 20 fois, comme dans la bouche visqueuse d'une pieuvre, elle les engloutit au plus profond d'un gour noir et froid dont nul œil humain n'a jamais pu percer le fond. On appelle ce gourde le gouffre noir, le gourgue négré. Jadis, une route fréquentée passait par là et franchissait le fleuve en amont de ce gourde par un gué fort étroit. Tout juste la place de poser un pied devant l'autre et encore fallait-il un guide sûr pour se faire montrer le chemin. Et malgré ce, bien souvent trébuchait-on. Et le malheureux, partant à la dérive, était rapidement saisi par le courant impétueux et à quelques brasses englouties, il était entraîné par les remous furieux qui désolaient ces lieux de perdition. Les gens du pays s'affligeaient de cette situation. Aussi, les consuls décidèrent-ils un beau jour de construire un pont qui franchit le fleuve de l'une à l'autre rive et permit de passer sans danger. Mais qui construirait cet ouvrage? Quel architecte assez hardi oserait d'une seule portée jeter une arche légère sur le gouffre profond et tourbillonnant? Quels ouvriers à ce point téméraire voudraient se lancer dans le vide pour sceller les pierres de la voûte? On fit une adjudication, mais pas un seul des maîtres d'œuvre du canton ne se présenta. Tous saignèrent du nez. Et l'on disait dans le pays que pas un homme sensé et bon chrétien n'oserait concevoir le plan d'un si étrange ouvrage. À moins d'être sorcier ou même d'être le diable en personne, nul ne pourrait faire l'impossible, du moins le disait-on. En tout cas, les gens du pays, eux, étaient bien malheureux, car il fallait en quelque sorte payer chaque année un lourd tribut des vies humaines à ce gouffre maudit. Et surtout, c'était pour eux une grande perte, car les étrangers préféraient faire un détour, les voyageurs et les roumiou, les pèlerins, qui allaient à Rocamadour ou à Compostelle, et franchir le fleuve en aval dans la plaine, sur un bac, en toute sécurité. Et de ce fait, le commerce du pays n'allait pas. Les affaires sommeillaient, les gens étaient bougons, et si par impossible, le diable était venu le leur construire, ce pont, ils auraient bien conclu marcher avec lui. Or, il vint, car le diable sait tout, entend tout, et ne perd pas une occasion de faire son profit, vous le savez bien et vous l'allez voir. Un jour donc, arriva un étrange pèlerin. C'était un homme d'une taille démesurée, comme il y en avait au premier âge de la terre. d'immenses bras, des bras longs et maigres, et des jambes aussi longues, maigres et molles, fluides comme des cheveux et nerveuses pourtant comme les branches des chênes. Il était vêtu de la traditionnelle bure des pèlerins, du lourd manteau qui part du froid et de la cisampe et qui, bien serré à la taille, résiste aux vents les plus furieux. Mais, chose extraordinaire, cette bure avait des reflets rouges et jaunes et au toucher, elle était si chaude qu'elle brûlait. Enfin, détail non moins troublant, ses yeux ne restaient jamais fixes. Et il brillait sous les sourcils roussis comme ces braises que l'on retrouve le matin dans l'âtre, quand la veille, on a tué, une vieille expression au sens étymologique de protéger, quand la veille, on a tué le feu et qui, sous la cendre chaude, scintille comme des yeux de chat et s'allument au moindre souffle, incandescentes comme des rubis. L'étranger s'était arrêté au bord du fleuve sur la berge escarpée. Longtemps, il resta là, immobile, et comme calculant et traçant des plans. Puis, ayant sans doute conçu déjà en son cerveau un projet, il vint à la maison commune trouver les consuls de l'endroit et il leur proposa de construire le pont juste au-dessus du gour négré, du gouffre profond et tourbillonnant. Le premier consul était sceptique, et il y avait de quoi. « Comment ferez-vous, étranger, tout seul? Car aucun manœuvrier dans le pays et aux alentours ne voudra vous aider pour accomplir cette tâche. »« Je me charge de tout, » répondit l'autre, « et j'aurai ma main d'œuvre. Vous n'aurez qu'à payer. » Tandis qu'il disait ces mots, ses yeux de rubis étincelaient comme des flammes. « Payer? Voilà le point, » pensait le consul, « s'il ne s'agit que de cela. » « Pour payer, nous payerons, » reprit-il en bonne espèce sonnante, et sur l'ongle, Tintin, sans crédit ni délai. « Est-ce si sûr que cela ?» ricanait le diable. « Car, mes amis, c'était comme vous l'avez reconnu, le diable lui-même qui se proposait pour faire le pont. « Sûr ? Mais oui, sûr ! Mais encore, faut-il savoir votre prix ?»« Eh bien, voilà, répondit l'architecte infernal, je ne demanderai qu'une chose, ou plutôt, je ne vous imposerai qu'une condition. Il se fit un long silence, et le premier consul alla dérober, essayer mais en vain d'attraper de son regard le regard fuyant de son interlocuteur. Laquelle ? La voici, écoutez bien. « Vous me donnerez l'âme de celui qui, le premier, franchira le pont quand je l'aurai construit. »« Aïe, aïe, aïe !» songeait notre homme. « Nous y voilà, bien sûr !» Et finot, il se grattait la tête pour gagner du temps et en faire jaillir une idée. C'est qu'il avait charge d'âme, le consul, et l'affaire était d'importance pour la commune. D'un côté, il y avait l'intérêt et la renommée du pays. De l'autre, une âme perdue pour l'éternité. Pourtant, il devait être possible de tromper le malin, pensait-il en fronçant les sourcils. En vain jeta-t-il un coup d'œil interrogateur du côté de son collègue. Le second consul, lui, ouvrait des yeux grands et ahuris, des yeux remplis de crainte car, tout soudain, il venait de voir à qui ils avaient affaire. Et c'est pourquoi il tremblait tant que ses dents claquaient comme des castagnettes et que sa peau était devenue tout à coup pâle comme celle d'un mort. Le diable, lui, souriait en silence. Après un long moment d'attente, le premier consul, pensant qu'il fallait quand même répondre, répondit. « Eh bien, soit, j'accepte au nom des autres. » Qui passera le premier sur le pont perdra son âme. Tu pourras, ô vilain démon, en faire ce que tu voudras. Accomplis ta promesse et nous remplirons nos conditions. As-tu bien réfléchi? Avez-vous, mon cher collègue, bien réfléchi? répéta le second consul en bégayant, à ce à quoi vous nous engagez. C'est tout réfléchi. Topela, j'y passerai moi-même le premier s'il le faut, dit le consul. Topons-la. Et le marché fut conclu en bonne et due forme. Quand il s'en fut allé de la maison commune, le diable, notre premier consul, se frottait malicieusement les mains l'une contre l'autre. Et en lui-même, il pensait « Ah, on t'aura bien !» Le lendemain, l'architecte nouveau était là. Et avec lui, il y avait toute une bande de travailleurs. Manouvriers, maîtres maçons, charpentiers, tailleurs de pierre, appareilleurs, ils étaient tous là, à pied d'œuvre, prêts à travailler, avec leurs bourgerons et leurs vestes de velours, avec leurs outils, massettes, aiguilles, bouchardes, fils à plomb, gamates et truelles, haches et scies, et des chèvres pour lever les pierres et les brouettes pour les transporter. Le maître des œuvres, lui, avait toujours son lourd manteau de bure qui fleurait les flammes de l'enfer. Sur le roc aplani, il traça des lignes, des droites et des courbes avec l'équerre et le compas, de grandes et longues lignes. Et il y ajoutait des chiffres, des nuées de chiffres qui volaient tout autour et venaient se poser tout soudain comme des mouches tourbillonnantes. Et ce ne fut pas long. Alors, les autres se mirent à l'ouvrage. Singuliers ouvriers qui trimaient sans chanter, sans siffler comme font les joyeux compagnons qui badinent de leur métier. Les tailleurs de pierre dans le flanc du rocher, aride et dur, dans le calcaire bleuté qui étincelait au soleil, tirèrent de gros blocs. Et il fallait les écarrir avec la massette et l'aiguille. Pim, pam! Les éclats de pierre volaient de ci, de là, et sur la rive, les moellons bien taillés par les appareilleurs et juste à la vraie mesure, bien qu'ils fussent tous différents, s'alignaient, prêts à prendre la place qu'il fallait. Un vrai chantier. Les charpentiers, eux, avaient abattu de grands chênes sur le cerf, de ces chênes qui ont 1000 ans, et peut-être plus, dont le cœur est dur comme pierre et résistant comme l'acier. Et ils construisirent en moins de 2, car ils étaient suprêmement habiles, une armature en bois qui devait soutenir les voussoirs et les sommiers. Et les haches sonnaient clair, ding, dong, en faisant éclater l'écorce et s'éparpiller au soleil des copeaux rutilants. Les maçons avaient fait le mortier. Ils puisaient l'eau dans la rivière avec un seau au bout d'une corde et ils gâchaient, à qui mieux mieux, la chaux et le sable fin. Ah, ils étaient habiles et lestes, mais ils travaillaient en silence. Et c'est pourquoi le chantier avait quelque chose d'étrange et d'anormal. Pensez, un chantier sans chanson, sans sifflet? On n'entendait que le bruit des outils, les massettes, les aiguilles, les bouchardes qui faisaient résonner gravement les lourds blocs, les pesantes pigasses qui fendaient le bois, les scies qui grinçaient et les pelles qui glissaient dans le mortier et les truelles qui le lançaient d'un geste sûr en bonne place. Pif, plaf! Étrange chantier, quand même. Plus étrange encore, le maître des œuvres, le grand diable vêtu de bure qui regardait ses ouvriers et vérifiait si l'ouvrage se faisait selon ses ordres. Des habitants du pays, nul n'osait approcher, pas même les femmes curieuses, pas même ces gens qui critiquent tout et qui surveillent les travaux comme s'ils s'y entendaient et s'ils étaient les patrons. C'est que le chantier était étrange, aussi étrange que le maître des œuvres et que les ouvriers. Mais par contre, à cause de cela, si la curiosité était tenue enfermée au fond des âmes, l'anxiété n'avait cessé de torturer les cœurs. « Ça va nous coûter cher !» disait l'un. « Et nous serons ruinés ?» ajoutait l'autre. « Qui payera, pensait-on, qui payera ces hommes ? » Eh, toujours les mêmes, répondaient les pessimistes, toujours les mêmes. Mais cependant, les gens raisonnables faisaient confiance au consul. Lui, il se tenait sur la cime du cerf et de là, il voyait s'avancer la besogne. Et il souriait d'aise, le brave homme. Il souriait d'aise parce qu'il le savait, lui. Maintenant, qui payerait ? En moins de deux, vous dis-je. L'œuvre fut achevée. Le soir même, le pont était fini. Un chef-d'œuvre d'audace et de légèreté. Une arche unique, esvelte et fragile d'apparence, mais construite en bonne pierre. Une arche enjambait le lit profond de la rivière au-dessus du gour nègre, du gour tourbillonnant. Une arche gracieuse et légère qui bondissait, semblait-il, de l'une à l'autre rive, qui se tendait comme un bras prêt à vous accueillir et à vous mener sans fatigue et sans danger de l'autre côté. Une arche comme jamais les Romains n'en construisirent, eux qui pourtant ont su faire le fameux pont du Gard, ni les Égyptiens non plus, ces maîtres bâtisseurs qui ont élevé les pyramides. Une arche fragile, mais solide, qui enjambait d'un saut le fleuve écumant juste au-dessus du gour profond et tourbillonnant. Deux plus petites près d'elle soutenaient la chaussée et le chemin à flanc de roc. En tout cas, le pont avait, en liant les deux berges, changé le paysage et tous les gens de l'endroit en restaient de loin, éberlués et abasourdis. De loin ? Car nul n'osait approcher, surtout maintenant que l'œuvre était faite et qu'il fallait, pécaïre, payer la note. Le second consul en pâlissait d'effroi et d'appréhension. Les diables, car vous avez bien compris que ces ouvriers étranges et si habiles étaient les compagnons du Satanas en personne, l'architecte vêtu de bure, le sinistre maître des œuvres aux yeux de rubis. Les diables donc, l'ouvrage fait, s'étaient tous retirés sur l'autre rive. Et ils attendaient pour voir qui passerait le premier et quel serait celui dont ils emporteraient l'âme, pris de leur fatigue et de leur peine. Et le maître des œuvres était là, lui aussi, appuyé sur le parapet. Il attendait le paiement convenu, sinistre et ricanant. Or, le premier consul qui, on le murmurait du moins de bouche en bouche, s'était offert pour acquitter la dette, le premier consul n'était pas là. Pourvu qu'il n'ait pas fui, pensait tristement son collègue, le second consul, qui ne tenait pas à trinquer pour lui. Et déjà, il tremblait le poltron d'avoir à payer de son âme quand l'autre arriva. Il s'avançait lentement, la conscience tranquille, guilleré, narquois et souriant. Il était coiffé de son chaperon rouge, son chaperon de cérémonie à gland d'or, et il avait revêtu sa toge noire où brillaient des parements brodés de fil d'argent. Il portait dans les bras un sac qui avait l'air bien lourd. derrière lui marchait son chien, sur ses talons, comme quand il le menait à la chasse, la queue au vent, l'air comique et ahuri, comme un bon chien, bête et innocent, ahuri et comique derrière son maître, la queue au vent. Mais ce n'était pas tout. Après, le chien venait à 50 pas en arrière, gardant bien les distances, le clergé. Venaient le curé et le secondaire, portant le surplis et l'étole, calotte en tête et tête en bataille. Et pour terminer cette procession, le clergeon lui-même, le fils du maréchal de l'endroit, le pelou, comme on lui disait. Il portait le seau d'eau bénite où trempait le goupillon. Aller voir ainsi marcher, avec si fière allure, les gens reprirent haleine. Le courage et la confiance leur étaient revenus, et surtout le bon espoir de n'avoir pas à payer. Le second consul en poussa un long soupir de soulagement. Par contre, le grand diable vêtu de bure, quand il les vit s'avancer, eut un frémissement. La vue de deux surplis blancs et des calottes en bataille, l'odeur de l'eau bénite aussi, tout cela ne lui disait rien qui vaille. Il s'en vint cependant jusqu'au milieu du pont. « Il faut payer, dit-il, et tenir la promesse. Qui, le premier, franchira le pont et doit nous livrer son âme ?»« Nous allons te payer, répondit le premier consul. Attends !» Et se disant, il avait posé le sac à terre. Il en sortit une vieille sartan, une poêle à châtaigne, toute percée de mille lieux malicieux. Il l'attacha à la queue de son chien, innocent, ahuri et comique, et d'un grand coup de pied en moins de deux, il vous expédia l'animal et l'engin sur la chaussée du pont. Le chien, hurlant et ahuri, prit la course. La sartan derrière lui, en rebondissant sur les pavés tout neufs, faisait un bruit, mes enfants, un bruit de tous les diables. Et rapide comme l'éclair, grondant comme le tonnerre, le chien passa entre les jambes du grand diable vêtu de bure, et en quelques sursauts, il franchit le pont le premier, avant même que les diablotins sur l'autre rive aient eu le temps de l'entrevoir. « Paye-toi avec son âme !» cria le premier consul. « Et grand merci !» Et la foule, de rire, mais de rire, et rit que tu riras. Tous ces gens, ces bonnes gens, ces gens pusillanimes, et quoi, maintenant, ils riaient à gorge déployée, comme des héros d'Homère ou de l'abbé Favre. L'abbé Favre, un poète occitan du XVIIIe siècle, fort célèbre en Languedoc, et qui a laissé une parodie de l'Odyssée d'Homère en vers burlesque. Le plus fort, c'est que ceux qui riaient le plus, c'était justement ceux qui avaient eu le plus de peur, ou ceux qui, sous cape, avaient âprement critiqué le premier consul, les mauvais coucheurs et les pessimistes, les critiqueurs et les poseurs de bâtons dans les roues, car c'est toujours et partout pareil. Et les gens d'autrefois ressemblaient fort à ceux d'aujourd'hui. Les diablotins avaient escaladé le flanc de la montagne. Et voici qu'ils s'étaient mis à lancer sur le pont de gros quartiers de roc, des blocs immenses qui tombaient dans la rivière. Floc, flac. Mais en vain. Le pont était trop solide et trop bien bâti. Aussi, l'infernal architecte en bavait-il de rage. Mais on se moquait bien de ça. Bave, tu peux toujours baver, messire le diable. Et c'est alors que ces messieurs du clergé entrèrent, si l'on peut dire, entrèrent en danse. Le goupillon, en tout cas, s'en donna à cœur joie. « Et je t'asperge par-ci, et je te bénis par-là, tant et si bien qu'il en fallut démordre, et que les misérables démons en déroute, dupés pour cette fois, s'en allèrent plus loin, chercher à attraper des âmes à moins de frais. » On dit qu'ils allèrent à Pampelune, ville de perdition. Mais c'est peut-être une médisance. Quant au grand diable vêtu de bure, il fit, sous l'effet de l'eau bénite, un suprême plongeon, juste au-dessous du pont, dans le gourd nègre, le gourd profond et tourbillonnant. Il y est encore, mes amis, mais vaincu et puni, désarmé et sans force. Aussi, plus jamais n'entendit-on parler de lui. Et quand les pèlerins qui allaient à Rocamadour, ou bien à Compostelle, passaient par là, ils regardaient du haut du pont, en toute sécurité, le fleuve tourbillonnant en glauque remous dans le gourd du diable. Puis ils passaient en faisant le signe de la croix, tranquille comme Baptiste. Le pont, lui, il est toujours là, mes amis, à la sortie des gorges de l'Hérault, superbe malgré les ans et magnifique dans le paysage. Si vous passez par là, allez le voir. Et les habitants d'Agnane ou de Saint-Guilhem vous raconteront, si vous voulez les entendre, la mirifique histoire de leur vieux pont, l'histoire du pont du diable. Chers amis auditeurs, nous avons un moment encore et je vous propose de commencer le 7e conte. Cadet Briscambille ou le trésor de Substantion. Il y a, non loin de Montpellier, près du village de Castelnau, au bord du Lesse, qui est un petit fleuve aux eaux calmes et tranquilles, émaillé des larges feuilles ou en la saison des larges fleurs blanches des nénuphars, il y a, dis-je, un site que l'on appelle Substantion. Autrefois, la voie domitienne qui reliait la province romaine de la Narbonnaise passait par là. Elle franchissait le Lesse par un gué et continuait sur l'autre rive vers Cessero, Béziers et Narbonne. Un poste militaire était, dit-on, établi sur les rochers qui dominent le fleuve pour garder le passage. Un simple poste, sans doute un relais, quelques soldats, des marchands, une auberge et dans les pins et les œillères de la garrigue, un temple de Mercure avec un autel. Souvent, les paysans, en déchaussant leurs vignes, en enlevant les cailloux et les rochers de la garrigue pour faire de la terre, ont trouvé par là des pièces de monnaie. Et de longue date, le chemin vicinal qui a remplacé la voie romaine, s'est appelé le chemin de la monnaie, le camin de la moneda. De longue date aussi est née cette légende qui dit que dans la nuit de la Saint-Jean d'été, à minuit, s'ouvre le roc de Substantion, s'entrouvre le cours du Lesse. Et alors, aux intrépides, aux cupides, aux aventuriers de tout poil, aux avares de toute mène, s'offre un chemin parmi l'onde même, un chemin qui permet d'accéder par la fente du rocher à une caverne merveilleuse, remplie d'or et d'argent, remplie de pièces de monnaie de toutes sortes, de toute espèce, de toute valeur, remplie de trésors fabuleux et inestimables. Qui veut en prendre n'a qu'à se baisser. Qui veut s'enrichir n'a qu'à remplir ses poches. Mais il faut faire vite, vite, très vite, car on n'a qu'une heure pour faire son affaire et le roc se referme. Tant pis pour ceux qui se sont laissés hypnotiser par l'éclat mirifique de toutes ces richesses. Ils restent enfermés dans la ténèbre épouvantable de l'abîme mystérieux et, comme vous le pensez, leurs âmes attachées au bien de la terre, leurs âmes d'avaricieux et de présomptueux deviennent pour l'éternité la proie du démon. Du démon qui ouvre la porte et qui la referme vite, vite, très vite sur ses malheureuses victimes. C'est du moins ce que dit la légende. En tout cas, dans un vieux manuscrit du temps, on trouve la preuve de sa véracité. Un vieux manuscrit du temps écrit dans la belle et claire prose occitane, dans la belle et claire langue du dialecte montpelliérain. Un vieux manuscrit du temps, contemporain et frère sans doute, du Petit Alamus, une chronique des événements qui se sont passés dans la ville. Cette chronique étant conservée aux archives municipales, on peut lire la merveilleuse et fantastique histoire de Cadet Briscambille. Cadet Briscambille, lui, a failli être la victime du trésor de Substantion. Cadet Briscambille, lui, a pu pénétrer un soir de Saint-Jean dans le roc de Substantion et il a pu en ressortir. Cadet Briscambille, lui, a pu parler de ses fabuleuses et étonnantes richesses comme témoin oculaire. Cadet Briscambille. Mais au fait, tenez, la voici son histoire, telle qu'elle est sur le vieux manuscrit du temps, où vous pourriez la lire, écrite dans la belle et claire prose occitane, dans la belle et claire langue d'oc, que l'on parlait à Montpellier à l'époque de Jacques Cœur ou de Saint-Roch. Cadet Briscambille était un pauvre étudiant en médecine, un étudiant très pauvre. Il était venu de son vivarais natal avec un misérable petit baluchon au bout de son bâton ferré, avec une belle et noble confiance dans la vie et dans l'avenir, avec de splendides illusions et aussi, il faut le dire, avec un désir louable, il est vrai, quoiqu'il fût peut-être un peu trop violent, de sortir de la crasse et de la misère où il était né. Sachant lire, écrire, compter, chanter au lutrin, nanti d'un bout de latin que lui avait appris le curé de son village, Cadet Briscambille était, en cette année de grâce 1451, un bel et solide gaillard de 20 ans. Il aurait été pimpant si ses habits avaient été neufs et plus riches, mais au demeurant, il ne laissait pas d'être agréable avec ses cheveux noirs et bouclés, avec son clair sourire et ses yeux pétillants de jeunesse et d'intelligence. Beau parleur, sachant moduler sa pensée avec l'expression du visage et force geste, poète à l'occasion, batailleur le cas échéant, mais pas du tout mauvais garçon, ni chercheur de vilaines querelles. Bref, c'était un bon et brave jeune homme, ce cadet Briscambille, qui était venu de son vivarais natal en cet an de grâce 1451 pour se faire immatriculer sur le registre de l'école de médecine de la célèbre université de Montpellier. Sa mère était veuve. Elle se saignait aux quatre veines, la pauvre femme, pour envoyer tous les trimestres un peu d'argent. 1 livre, 11 sols, 8 deniers, le montant de la pension, et une lettre qu'elle faisait écrire par le barbier du village. Le tout était apporté à la date dite par Gustou, le muletier, qui tous les mois, avec ses saumes, chargé d'épices, de confitures, d'électuaires et de produits de toutes sortes dont on trafiquait à Montpellier, montait jusqu'en Auvergne et repassait par le même chemin pour prendre une nouvelle cargaison. En retour, Cadet Briscambille, par le même moyen, faisait tenir à sa maman une lettre aimable et affectueuse dans laquelle il parlait de son travail et de ses progrès. La première année, il en fit des progrès. Et les lettres n'étaient point mensongères. Cadet fut un escolant parfait, studieux, ponctuel, assidu, appliqué. Il ne manqua aucun des cours du grand et du petit ordinaire. Sa logeuse, Mosse de Bella, une vieille femme barbue et un peu crasseuse, ne pouvait au commère du quartier ses voisines que faire l'éloge de son scolaris, comme elle disait. Ah ! S'il étudiait qu'à des briscambilles, la nuit, le jour, le nez toujours fourré dans les livres, la plume à la main, herborisant dans la garrigue du Crès ou à travers les prairies de Latte, les dimanches et les jours de fête, il trouvait encore le moyen de donner le reste de son temps à un apothicari du Canot, maître Laurent Murcia, catalan et marin d'origine et de secte. Dans l'arrière-fond de la boutique, Cadet s'initiait sous lui à la pharmacopée, à la préparation délicate et subtile de l'altermesse et de la tiarique, et aussi à la concoction, distillation et confection de parfums, sirops et autres artifices de sucre dont raffolaient les malades et les délicats. Ainsi se passa la première année. En cette fin d'épisode, terminé à la fin du conte Le Pont du Diable, nous avons aussi commencé la lecture du suivant. Et dans notre livre de contes, ce septième conte porte le nom de Cadet Briscambille. En bref, il s'agit d'un jeune homme de famille pauvre qui vient faire ses études à Montpellier. Nous le suivrons dans le prochain épisode du livre « Contes et légendes du Languedoc » chez Fernand Nathan. Ce sont des récits tirés et traduits par Marcel Barral et Charles Campreau. À bientôt, chers auditeurs.
Alliance Plus.